Espace 2.
La spiritualité est en vogue aujourd'hui. Elle peut être religieuse ou laïque, bouddhiste ou chrétienne. Elle propose en tout cas à chacun, selon ses convictions, un parcours qui vise au mieux-être, à davantage d'harmonie avec soi-même comme avec la transcendance. Cette semaine, à l'enseigne d'Avu d'Esprit, un théologien développe un propos sur la spiritualité protestante. Un propos qui s'enracine à la fois dans une théologie de la spiritualité et dans une pratique de la vie spirituelle. Poursuite donc de cette initiation en compagnie du théologien français Louis Schweitzer. Jérémy Cohn est à la réalisation et Serge Carrel au micro. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue.
À vue d'esprit.
La communauté locale chrétienne, l'église ou la paroisse, est un lieu privilégié du développement personnel en spiritualité protestante. Pas besoin d'abord de lieux de retraite ou de monastère, mais une communauté chrétienne vivante. Louis Schweitzer, professeur de théologie à la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine, en banlieue parisienne, et à l'Institut catholique de Paris, en est convaincu. Explication.
L'église, pour un chrétien, est le lieu naturel du développement de la vie spirituelle. La personne qui s'engage à la suite du Christ ne s'engage pas seule et isolée à la suite du Christ, mais dans la communauté des disciples, dans la communauté des chrétiens. Et je crois que la notion de maître spirituel, même si elle a été utilisée, n'est en tout cas pas très protestante, hein, et si j'ose dire en dehors du Christ, s'il y a un maître spirituel, mais c'est l'Église, c'est la communauté. Et dans l'Église, dans la communauté, lorsqu'effectivement elle fonctionne comme elle devrait fonctionner, hein, et Dieu merci, tant bien que mal, beaucoup d'Églises fonctionnent comme ça, je dirais qu'on se retrouve au milieu d'un tas de gens. Il y a des gens qui ont un ministère particulier, que ce soit pasteur ou d'autres, mais aussi il y a tous les autres avec lesquels on chemine. Et dans cette diversité des personnes, il y a une diversité de tempéraments, de sensibilités, de cultures, d'intérêts, etc. Et je crois que cette diversité est aussi un gage de liberté. Parce que justement, dans cette diversité, je vais pouvoir m'identifier à telle chose, chez l'un, à telle chose, chez l'autre. Vous savez, dans les églises évangéliques, très souvent, on parle du témoignage. Et le témoignage, on peut en parler avec un certain sourire quelquefois, parce que ça peut devenir un peu caricatural. Mais quand il n'est pas caricatural, c'est-à-dire quand il est bien fait, je crois que le témoignage, c'est le partage avec de quelqu'un, avec la communauté, du cheminement qui est le sien et de ses expériences de vie. Et je crois que ça, c'est très riche d'entendre quelqu'un, au cours d'un culte, au cours d'une réunion de prière, d'études bibliques, partager un certain nombre de choses qui m'ouvrent peut-être des horizons nouveaux, qui me rendent attentif à tel élément, etc. Et puis, dans la mesure où justement, il y a une diversité de sensibilités, de personnes. Au fond, je ne vais pas non plus, de manière un peu aveugle, m'identifier à quelqu'un au point d'en être obnubilé et de ne pas voir le reste, puisqu'il y a déjà cette diversité. Donc je crois que l'Église, c'est le lieu par excellence de la vie chrétienne. Et il suffit de lire l'Évangile, de lire les Actes des Apôtres, pour s'apercevoir que cette communauté, avec à la fois la méditation communautaire de la parole et puis la Sainte Cène, etc., c'est quelque chose de central.
Mais aujourd'hui, quand on regarde les paroisses ou les communautés locales, on se dit qu'on est bien loin de la vision un peu enthousiaste de l'Église que vous avez, dans le sens où l'Église est souvent, ou la paroisse locale, est souvent un lieu où on vient le dimanche, où on s'approvisionne un peu en différentes choses, et finalement, tout s'arrête là.
Alors, ça peut être ça si on prend la version minimaliste. Ce que je remarque, c'est que en France, en tout cas, la déchristianisation, la sécularisation ont au moins un avantage, si j'ose dire. C'est que, vous savez, autrefois, on faisait la grande distinction entre les églises de multitude, où il y avait justement la foule, et où c'était un peu ce que vous disiez, on venait juste écouter, bon. Et puis les églises de professants, communautés de personnes engagées. Aujourd'hui, en France, j'ai l'impression que à peu près toute église est une église de professants par définition. Parce que si le dimanche matin, vous allez à la messe ou vous allez au culte, c'est que vous le voulez bien. Si vous voulez faire comme tout le monde, vous faites du jogging, vous sortez votre chien.
Ou vous restez au lit.
Mais si vous allez là, bon. Et donc, les communautés peuvent vraiment, beaucoup plus que dans le passé, devenir des communautés fraternelles. Alors là aussi, soit il faut des petites communautés relativement, et là, je dirais, c'est ce qui se passe souvent, soit des grandes communautés, mais très organisées et subdivisées pour quand même le côté petit groupe puisse exister. Vous rappelez qu'à l'époque du réveil piétiste, finalement, Spener avait remis en valeur les petits groupes, qui permettait des partages, etc. Donc cette dimension, moi, vous savez, je me suis beaucoup promené quand même dans le protestantisme français en tout cas, et j'ai vu beaucoup d'églises, que ce soit les églises évangéliques, que ce soit les églises luthériennes, réformées, où effectivement cette dimension quand même existait de manière consciente, peut-être même quelquefois de manière un peu inconsciente, mais ça fonctionnait quand même, je crois.
Louis Schweitzer, vous définissez ce que vous appelez l'Église, donc la communauté locale des croyants, comme une école du disciple.
Oui.
Alors, au vu de ce que vous venez de dire, concrètement, ça signifie quoi ?
Ça signifie que pour moi, le disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui va essayer d'écouter sa parole, donc d'écouter, de comprendre l'enseignement de Jésus et de la mettre en pratique. Et que, à la fois dans cette écoute et cette compréhension, la communauté joue un rôle clé, je crois. Parce qu'il y a effectivement moi devant ma Bible, si j'ose dire, ou devant l'Évangile, mais la réalité, c'est nous, en communauté, essayant de s'apporter les uns aux autres, bénéficiant aussi des dons que l'Esprit accorde aux uns et aux autres. Il y a des gens qui ont une formation, il y a des gens qui ont une sensibilité particulière, qui ont une expérience spirituelle. Et donc je crois qu'on apprend là à être disciple, on apprend à vivre, déjà à comprendre l'Écriture. Mais aimer le Seigneur, c'est pas simplement garder la parole, c'est la mettre en pratique. Et cette mise en pratique, je crois que la communauté est aussi le lieu. Non pas où on met l'écriture en pratique, parce que c'est la vie, c'est le monde, c'est tous les jours, c'est partout, mais où on peut partager avec d'autres à la fois ce souci et cette expérience. Et dans ce sens-là, je crois que la vie d'église, avec toute sa dimension de partage, pas simplement de culte dimanche avec une prédication, etc., et on s'arrête là, mais avec cette dimension de partage avec d'autres, d'échange avec d'autres, d'études bibliques au cours desquelles on peut échanger des idées, s'affronter, je dirais, dans des interprétations différentes, etc., des moments de prière aussi, où on peut apprendre à prier à travers la prière des autres, je crois que là, effectivement, on est là pour être disciples du Christ. On n'est pas là pour être de bons protestants qui viennent remplir leurs obligations dominicales, mais je crois que la vérité même, ce que ça devrait être en tout cas, c'est nous sommes là en tant que disciples du Christ pour essayer d'être des apprentis dans la vie chrétienne, et l'Église, c'est le lieu normal de cet apprentissage.
Mais est-ce que cet accent sur la communauté locale, dans toute sa fragilité, dans toute sa modestie,
oui,
est-ce que c'est quelque chose qui est spécifiquement protestant ? Parce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'en orthodoxie, on valoriserait plutôt les monastères comme des lieux de rayonnement de spiritualité
c'est
particulièrement
vrai.
Fort. On pourrait imaginer un peu la même chose du côté catholique.
Oui, c'est vrai. Encore que bien à cause peut-être de l'évolution et de la sécularisation, bien des paroisses catholiques, et cette dimension aussi, et peut-être orthodoxe, en diaspora, ça me paraîtrait probable. Oui, je crois que c'est une spécificité. Alors je ne crois pas du tout que l'Église se réduise à la communauté locale, ne me faites pas dire cela. Mais je crois qu'effectivement, le lieu normal de mon apprentissage, c'est la communauté locale. Cela dit, je mettrai quand même un petit bémol, il n'empêche que des personnes et des lieux ont un ministère qui dépasse de loin le local. Et nous parlions dans un autre entretien de la communauté des diaconesses de Rueil, à Versailles ou en d'autres lieux en France, mais il y a aussi Grandchamp et beaucoup d'autres communautés de ce type. C'est vrai que ces communautés sont des lieux ressources, des lieux où on peut aller pour à la fois être écouté, voire accompagné, mais aussi où on peut aller pour méditer, pour des temps de retraite, etc. Donc il y a les deux. Le local, c'est la vie de tous les jours. Et cette vie de tous les jours, je crois que c'est là que nous sommes appelés à vivre notre foi chrétienne. Alors là, il y a peut-être aussi un accent qui n'est pas spécifiquement protestant, mais qui est quand même peut-être particulièrement protestant, c'est que le lieu normal de l'expérience chrétienne, c'est le quotidien. C'est la vie de tous les jours, le travail, la famille, etc. Et la communauté locale, c'est ce qu'il y a de plus près, me semble-t-il, de cette vie quotidienne.
Louis Schweitzer, la Bible joue un rôle important dans ce vécu de communauté locale, dans ce vécu d'école de disciples. En quoi ?
Alors, évidemment, quand on est protestant, on parle de spiritualité protestante, l'Écriture est centrale. Parce que pour nous, l'Écriture, c'est la révélation de Dieu. Et donc, je dirais que l'aspect central, me semble-t-il, c'est que c'est à travers l'écriture que nous rencontrons le Christ, que nous écoutons le Christ, que nous recevons son enseignement et que nous allons essayer de le mettre en pratique.
Mais alors, donc, concrètement, comment est-ce qu'on lit cette écriture? J'entends, c'est pas très simple de prendre un gros livre et puis de se dire que Dieu parle au travers de ce livre.
Tout à fait. Alors, je crois que d'abord, là aussi, le fait d'être accompagné dans cette lecture peut être utile. Il ne faut pas ouvrir la Bible n'importe où et commencer par n'importe quel livre. Il y en a certains qui seraient peut-être un peu plus fatigants que d'autres et on n'arriverait pas au bout.
Digeste ou indigeste.
Voilà, exactement. Donc je crois qu'il y a des portes d'entrée. Et c'est vrai que la porte d'entrée la plus naturelle, c'est l'Évangile. Et en même temps, je dirais que c'est un centre un peu insondable de l'Écriture. Alors je crois qu'il y a plusieurs lectures là. Il y a à la fois une lecture personnelle et puis il y a une lecture communautaire. Et les deux se complétant l'un l'autre. La lecture communautaire, c'est, je crois, la garantie d'une lecture qui n'est pas seulement ma lecture purement subjective, où j'amène mes propres idées uniquement, mais au fond, il y a une sorte d'herméneutique communautaire, de compréhension, d'interprétation communautaire de l'écriture, qui me paraît quelque chose de régulateur, en quelque sorte. Alors après, il me semble qu'il y a plusieurs éléments. Je crois que nous sommes appelés à lire, nous sommes appelés à étudier, et nous sommes appelés à méditer la Bible. Déjà lire. Aujourd'hui, jamais il n'y a eu autant d'instruments à notre disposition pour lire et étudier la Bible. Il y a d'abord des traductions multiples, allant de la traduction belle, savante, en français littéraire, jusqu'à la traduction en français fondamentale. Donc l'accès est facile, les commentaires, les Bibles annotées, etc. sont très nombreuses. Donc il y a une première dimension qui est simplement une dimension de lecture, et moi je crois qu'il faudrait vraiment que beaucoup de gens acceptent que la Bible n'est pas d'abord le livre sacré qu'on révère et dont on va lire un verset de temps en temps, mais un livre qu'on va lire exactement comme on lirait un roman. On commence et on va jusqu'au bout.
C'est un peu votre plaidoyer aussi dans votre livre Les chemins de la vie spirituelle, vous invitez les gens à parcourir cette saga qu'est la Bible.
Voilà, à la lire comme on lirait un roman. Et d'abord on se rend compte que c'est pas pour rien que tel aspect vient après tel autre et voilà, qu'il y a une cohérence. Donc ça c'est la première chose, avec les Bibles en français courant, français fondamental, je dirais c'est à la portée de n'importe qui, de prendre un livre biblique, de le lire en entier. Et voilà. Alors, en commençant peut-être par les plus simples, et puis quand on voit l'intérêt, peut-être certains d'autres qui seront plus compliqués. Il y a ensuite une dimension d'étude. Et là, encore une fois, à travers les traductions bibliques annotées, je pense à la traduction œcuménique, à la Jérusalem, à la Bible, à la Nouvelle Bible Seconde, il y en a beaucoup d'autres. On n'a jamais eu autant d'instruments faciles d'accès pour n'importe qui pour comprendre intelligemment. Là, ça prend un peu plus de temps parce qu'on n'est plus dans la lecture cursive, mais on fait un peu plus attention. Et là, la dimension communautaire me paraît très forte aussi. Parce que les groupes d'études bibliques sont des lieux où on va pouvoir tester notre compréhension par rapport à la compréhension des autres, s'apercevoir que ce qui paraît tout bête et tout évident à telle personne en face de nous, et l'œcuménisme aussi est un lieu très intéressant là-dessus, parce que ce qui paraît tout naturel à l'un dans la lecture, paraît pas du tout naturel à l'autre, et là on s'aperçoit de la diversité des regards.
On a chacun nos propres clés de lecture.
Exactement. Donc regardons le même texte avec nos lunettes. Donc là, ça c'est simplement, je dirais, pour que cette lecture soit intelligente et pour qu'on comprenne vraiment ce qu'on lit. Et puis la troisième dimension, qui est celle qui nous fait rentrer, je dirais, de plein pied dans la spiritualité au sens fort.
Donc là, c'est ce que vous appelez la lectio divina.
Voilà. La lectio divina, pour moi, c'est un terme, je dirais, traditionnel, qui remonte à la tradition cistercienne en particulier, donc la grande tradition monastique. Et au fond, je crois que c'est la manière dont le protestantisme a toujours dit, sans employer le terme, c'est la manière que le protestantisme préconise pour approcher l'écriture. Je crois qu'il y a là d'abord la lecture du texte, pour essayer de lire intelligemment ce que le texte dit. On fait cette lecture intelligente pour essayer de ne pas trop s'égarer dans les mauvaises compréhensions. Et puis ensuite, la question, ça va être, qu'est-ce que le texte me dit? Vous savez, c'est Dietrich Bonhoeffer qui disait que la Bible était une lettre d'amour que Dieu adressait à chacun d'entre nous. Et bien voilà, qu'est-ce que ce texte me dit à moi dans ma réalité, dans ma situation, dans mon expérience vécue avec mes problèmes professionnels, ma dimension familiale, etc., etc. Et je crois que là, il y a tout un temps d'écoute, de recueillement devant l'écriture et de disponibilité devant l'écriture.
Donc là, on n'est plus dans une dynamique intellectuelle où on va essayer de comprendre, mais on est plus dans l'ordre de l'affect.
Et de la méditation, exactement. On laisse une parole. Alors, il ne s'agit pas de prendre un texte de 4 chapitres. On peut lire un grand texte, puis je dirais, il y a un verset, une parole, quelque chose qui va résonner en nous. Le laisser ou la laisser résonner longuement en nous.
Mais là, pratiquement, comment ça se passe? Vous ressassez un peu cette formule une sorte de mantra ou comment ça se passe pour vous personnellement?
Non, mais on peut la lire et la relire, la reprendre, la retourner un peu, en effet, la laisser éclairer en quelque sorte certains éléments de notre vie intérieure. Alors effectivement, peut-être en la relisant, en la reprenant, en la méditant. Vous savez, lorsqu'il est dit que Marie repassait ces choses dans son cœur, c'est une répétition, il y a de la rumination là-dedans. Et puis, accepter, je dirais, et là c'est dans le silence intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas mon discours intellectuel qui va tout de suite se brancher là-dessus, mais essayer d'accueillir cette parole dans ce que je suis en profondeur, y compris non seulement dans ce qu'elle me dit et qui me plaît, qui m'intéresse, qui me passionne, mais peut-être ce qu'elle me dit dans ce qui me gêne, dans ce qui va éclairer des éléments de ma vie qui ne sont pas forcément ceux que j'aurais envie de mettre en valeur, etc. Accepter cette lecture. Et là, je dirais, il y a tout un temps qui est la véritable, je crois, méditation chrétienne. Quand on parle de méditation dans le christianisme, traditionnellement, c'est une méditation de l'écriture ou d'une vérité de l'écriture. Et puis après, je dirais, transformer ce que j'ai reçu de cette lecture, transformer cette écriture telle qu'elle a été digérée en quelque sorte par la méditation en prière. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'écouter, mais pour, en quelque sorte, parler à Dieu de ce qu'il me dit, ou à partir de ce qu'il me dit. Ça, je crois que c'est une discipline qui est la perfection, on pourrait dire, d'une méditation protestante. La nourriture de l'écriture, c'est depuis Luther, Calvin, je dirais, le centre de la méditation protestante.
Si vous souhaitez approfondir les perspectives de Louis Schweitzer en matière de spiritualité protestante, vous pouvez nous retrouver demain, même heure, même fréquence. Vous pouvez aussi lire son livre « Les chemins de la vie spirituelle » ou alors participer à un séminaire qu'il anime avec d'autres en Suisse romande dans cette fin de semaine. Pour tout renseignement complémentaire, notre page web espace2.ch/esprit. Voilà, à vue d'esprit, c'est terminé pour ce soir. Jérémy